Cours de l'introduction à la philosophie de la nature de Père Marie-Dominique Philippe, le 15 octobre 1999 à Saint-Gérard.
Il est sûr que le traité de la philosophie de la nature par rapport à Aristote est celui où nous devons être le plus attentifs à ne pas répéter Aristote. Parce que la science physique s'est développée depuis Aristote. Et c'est sûrement à l'égard de la philosophie de la nature que c'est le plus délicat de voir ce que nous pouvons et que nous devons découvrir aujourd'hui. C'est sûrement là où le regard critique par rapport à Aristote doit être le plus net. C'est pour ça qu'au fond, quand on commence la philosophie par la philosophie de la nature, ce que réclamait la scolastique, c'est pas commode du tout dans notre temps d'aujourd'hui. Je crois qu'aujourd'hui, comme on est en face d'une pensée hégélienne, la pensée hégélienne est très loin de la philosophie de la nature, hein. Ça n'en occupe pas beaucoup, ça, pour être sûr. Le crapaud reste tranquille. Et le monde physique aussi. On est au-dessus de tout ça. Les deux traités, et surtout la philosophie de la nature, le traité philosophie de la nature et philosophie du vivant, sont deux traités qui sont particulièrement difficiles pour nos intelligences modernes. Vu que la science physique, la science biologique nous ont donné une vision du monde physique et du monde des vivants qui est dans la ligne de la science. J'ai discuté énormément à Fribourg. J'avais une grande amitié avec un des professeurs de chimie organique à Fribourg. Et qu'il était en même temps soucieux aussi de philosophie. C'était un Italien. Et on discutait tout le temps. Je lui posais la question, par exemple, je vous donne ça à titre d'exemple. Pouvons-nous aujourd'hui, avec la philosophie, la science physique, pouvons-nous aujourd'hui parler encore des quatre éléments comme quelque chose qui est vrai? Ou est-ce que Aristote demandait? Quatre éléments, vous voyez, quatre éléments habituels, hein. La terre, l'eau, l'air, le feu. Dans la science moderne, ça ne signifie rien du tout. C'est bien évident. Mais au plan philosophique, est-ce que c'est encore vrai? Nous n'allons pas en traiter ça tout de suite, hein. Je ne commence pas ma philosophie de la nature par les éléments. Et c'est intéressant de se poser la question. Et ce sont des questions difficiles, très difficiles, surtout parmi vous, ceux qui ont fait des sciences physiques ou des sciences biologiques. Mais ils ont de la peine. Et c'est forcé, c'est pas un défaut, c'est très bien qu'il y en ait. Moi, je suis très heureux de voir des physiciens, ce que je vous ai dit, la réaction de ce futur docteur en biologie de Genève, qui était un grand d'Espagne, un Guzman, donc apparenté à Saint-Dominique, qui venait me voir de temps en temps, la communauté de Saint-Jean n'existait pas encore. Hein. Et c'était net qu'il avait une vocation. J'avais pensé beaucoup à entrer chez les bénédictins, et en même temps, ça ne satisfaisait pas. C'était très curieux. Et je lui disais de venir, quand il venait, il me connaissait, il pouvait venir, même si on était dans un séminaire où c'est plus intime. Puis alors, il est tombé une fois juste sur ce passage d'Aristote, que le corps humain est intelligible par l'âme. À la fin du cours, elle me dit, mais alors, c'est affolant, intelligible par l'âme. En science biologique, on ne parle jamais de l'âme, et on ne peut pas en parler. Alors, tout ce qu'on fait, qu'est-ce que c'est? Il avait reçu le choc, là, comme ça, brutalement. Il était intelligent. Mais il n'était pas à Fribourg, donc il était absolument dans sa recherche scientifique biologique. Il ne pensait jamais à la philosophie. Est-ce qu'il y a une philosophie du vivant? Et qu'est-ce qu'on doit dire, philosophie du vivant? Et la thèse du Père Pascal est un peu là-dessus. Qu'est-ce que c'est que le corps au plan philosophique? Qu'est-ce que c'est que le corps au plan de la science biologique? Et c'est pour vous montrer que le problème de la philosophie de la nature est sûrement particulièrement délicat. Et c'est peut-être à cause de ça qu'on le laisse un peu tomber. Et c'est aussi parce que c'est moins important, comme au fond on parle de futurs théologiens, c'est moins important, bien qu'on parle de la nature de Dieu. Est-ce qu'on a le droit de parler de la nature de Dieu? Avicenne parlait de l'essence. Saint Thomas parle de la nature. Il dit nature et essence, c'est la même chose. Ah, ça pose un terrible problème. Et très intéressant, parce que c'est l'affrontement. Alors, les affrontements sont toujours intéressants quand on cherche la vérité. Parce qu'on ne doit pas les éviter. Les éviter, c'est pas bien, c'est pas courageux. On doit regarder ça en face. Alors, c'est intéressant de situer exactement au plan philosophique ce qu'est la philosophie de la nature. Parce que c'est là où l'affrontement est le plus fort. Et Aristote a développé énormément la philosophie de la nature. Pour Aristote, la philosophie du dianima fait partie de la philosophie de la nature. Or, je crois que nous ne devons pas mettre cela comme ça. Nous devons considérer qu'avec le vivant, il y a une partie de la philosophie nouvelle qui n'est pas la philosophie de la nature, qui est encore la philosophie de la nature à cause du corps, mais c'est matériel. L'âme ne peut pas se traiter en philosophie de la nature, ça ne peut se traiter qu'en philosophie du vivant. Alors comme vous faites un cours de philosophie, comme on fait ici un cours de philosophie du vivant et que vous le suivez, c'est toujours intéressant de regarder comment Aristote, lui, mettez le dianima dans la philosophie du vivant, dans la philosophie, dans la physique. Et c'est pour ça qu'il dit métaphysique. Mais le terme métaphysique, vous savez bien, c'est un terme de bibliothécaire. Et c'est ce terme-là qui est resté. Aristote n'a jamais dit métaphysique. Jamais. Ce n'est pas un terme aristotélicien, c'est un terme scolastique. De sorte que je crois que attention, aujourd'hui, étant donné qu'il y a eu un enterrement magistral de la métaphysique avec Heidegger, il ne faut plus dire métaphysique, il faut dire philosophie première. Quand vous parlez à l'université de Lyon, quand vous parlez à la Sorbonne, ne dites pas on fait de la métaphysique, on fait de la philosophie première. Hein? Alors, le haut de cœur qui a envie de vomir sur la vieille scolastique, disparaît. Parce que Husserl parle de la philosophie première. Si Husserl en parle, chapeau. Il faut être de son temps et comprendre les sensibilités de notre temps. Vous voyez, c'est pas la peine d'énerver les gens. C'est un manque de charité. Il faut pas la peine de les énerver. Entre nous, très bien, nous avons notre manière de parler, c'est rien. Mais dès qu'on est à l'extérieur, faisons attention. Pour eux, la scolastique, c'est catho. Et donc, ça ne va pas. Ce n'est pas de la vraie philosophie. Et ils ont raison. Ils ont raison, là. Ils ont raison. On a maintenu ça à tout prix, tant que le christianisme avait une culture et avait son droit à parler. Et de plus en plus, l'Institut catholique, qui enseigne la philosophie, doit faire grande attention. Alors, j'aime mieux qu'on soit poli, qu'on fasse attention, mais qu'on maintienne l'aristotélisme. Vous voyez, admentem divitome, c'est une expression scolastique. Admentem, je ne dis pas divini aristotélis, mais admentem aristotélis. C'est, ils sont l'esprit qu'Aristote dit pour la philosophie de la nature. C'est l'esprit qu'on doit saisir. Alors, ceux qui peuvent étudier directement le texte d'Aristote, de la philosophie de la nature, tant mieux. Enfin, j'ai pas le temps, moi, de le prendre. J'ai pas le temps. J'aimerais. C'est toujours avantageux d'avoir un texte qu'on regarde attentivement. Alors, ceux qui étudient la philosophie de la nature selon Aristote, très bien. Et s'ils ont des difficultés, ils essaieront de comprendre. Et ce cours doit vous aider à entrer dans ce que je crois devoir exister toujours, une philosophie de la nature. C'est nécessaire. Je ne peux pas regarder le monde uniquement d'un point de vue scientifique. Je dois le regarder d'un point de vue philosophique. Parce que c'est par là que je peux faire le lien avec la théologie. Autrement, il n'y a pas de lien. Alors, c'est pour ça que quand on regarde la science, quand on regarde l'homme uniquement d'un point de vue biologique, moderne, il y a des conflits. Il y a des conflits. Alors, il ne doit pas y avoir de conflit entre la philosophie et la théologie. Il y a deux points de vue différents, deux lumières différentes, mais il ne doit pas y avoir de conflit. Tandis que si vous le regardez au point de vue uniquement scientifique, vous risquez toujours de tomber dans le positivisme. Vous n'avez pas fait votre conversion philosophique, de sagesse philosophique. La science est incapable de parler de Dieu. Elle ne peut pas parler de Dieu. Elle est liée à une connaissance de mensuration. Elle ne peut pas parler de Dieu. Tandis que la philosophie, même la philosophie de la nature, doit pouvoir aller jusqu'au bout, se poser la question, y a-t-il quelque chose au-delà du monde physique? Y a-t-il une réalité au-delà du monde physique? Et je vous dis ça, c'est parce que c'est l'affrontement, hein, la philosophie de la nature. Alors, si certains d'entre vous sont énervés, dans le sens propre, qu'ils essaient de rendre intelligent leur énervement. C'est du reste un moyen merveilleux d'être patient. Mais quand vous êtes énervé, rendez intelligent votre patience. Alors tout de suite, ça fait qu'on entre dans quelque chose de beaucoup plus calme. Oui. Et des énervements comme ça, constants, quand on est une grosse communauté, et des énervements qui viennent de la grosseur de la communauté, souffler dedans pour que ce soit moins gros, tu vois, et dire, mais oui, c'est vrai, c'est obligatoire, parce que vu le nombre, et on ne peut pas supprimer le nombre. Mais, supprimer le nombre, ce serait quoi? Ce serait dire que des quantités d'entre vous, attendez, les vaches maigres, moi je ne les attends pas, les vaches maigres, j'attends au contraire des vaches vigoureuses et de plus en plus nombreuses. C'est ce qu'il faut. Ce qu'on doit avoir. C'est-à-dire que l'Afrique puisse venir, les États-Unis puissent venir, le Mexique vient, et bien ainsi de suite. Alors plus il y aura de vocation au Mexique, plus Saint-Jaudard sera avec les vaches grasses et multiples. Mais si le Mexique n'envoyait plus personne, et ça, en philosophie de la nature, spécialement, déjà en philosophie du vivant, c'est comme ça. Ça, c'est sûr. Mais en philosophie de la nature, de façon radicale. Et l'autre philosophie de la nature, vous voyez, pour nous, c'est constamment le marxisme. C'est évident, le marxisme, c'est la philosophie de la nature. C'est un affrontement direct avec le marxisme, la philosophie de la nature. Pour montrer aux marxistes que si on est homme, on n'est pas idéaliste et platonicien. Il n'y a pas de dialogue possible entre un platonicien et un marxiste. Ils sont trop proches. Et donc, il y a l'opposition. Gog et Magog. Surtout, aujourd'hui, un néo-platonicien sera nécessairement Magog. Espèce de Magog, vous voyez. Il ne faut pas leur dire ça. Mais pour vous, dans notre langage à nous, il faut vous lire. C'est intéressant, on lit l'Apocalypse. Et on sait très bien ce que c'est. Cette espèce de division dans l'immanence. Et cette division dans l'immanence se comprend avec Hegel. Hegel a ce côté génial, il ne faut pas l'oublier, il a ce côté génial d'avoir été Gog et Magog. Mais c'est terrible. Hein. Pour le chrétien, c'est terrible. C'est l'annonce des luttes les plus fortes selon l'Apocalypse. Alors, faisons-nous cette philosophie indépendamment d'Aristote. Hein. Mais en même temps, je vous cite la référence Aristote, constante. Mais je ne suis pas Aristote. Je suis imprégné de l'esprit d'Aristote, je crois. Je suis imprégné de l'esprit d'Aristote, ce qui me permet d'essayer de comprendre comment nous pouvons maintenir une philosophie de la nature. Vous voyez ? Et alors, c'est intéressant, si de temps en temps je dis quelque chose qu'Aristote ne dit pas, notez, essayez de comprendre pourquoi. Et c'est un affrontement. Parce que la philosophie de la nature, la physique d'Aristote, est un livre que vous devez avoir lu. Dans vos 3 années, ne le lisez pas en première année. Je ne crois pas. En première année, lisez l'éthique. Alors là, oui. L'éthique d'Aristote est beaucoup plus proche de sa métaphysique que la philosophie de la nature. Mais, la philosophie de la nature a ceci d'avantageux, c'est que c'est le premier moment d'une philosophie spéculative. Notre univers qui nous enveloppe maternellement, comme dira Aristote. Il nous enveloppe maternellement. Il ne le dit pas comme ça, hein, mais c'est son idée. Parce que la cause matérielle est maternelle. Et c'est ça qu'on découvre en philosophie de la nature. On découvre que la cause matérielle est maternelle. Et ça explique pourquoi le marxisme a une telle force, une telle séduction. C'est maternel. Et il le dit, il le montre bien. Il veut être pour les pauvres. C'est maternel d'être pour les pauvres. Les Aristote, les aristocrates, c'est Platon. Platon, c'est de race impériale. Il avait ça dans le sang. Il voulait trop. C'est intéressant de saisir en même temps ce qu'il y a de positif dans le marxisme. De nous réveiller par rapport à la cause matérielle. On s'était endormi par rapport à la cause matérielle, et complètement endormi avec la scolastique. La scolastique nous a chloroformés. C'est le thomisme qui chloroforme. On s'endort avec ce qu'on disait, seuls les gens intelligents doivent être scolastiques. Pas du tout. Et la scolastique, elle a traité le point de vue de la philosophie de la nature comme la porte ouverte à la métaphysique. Et j'ai tout à l'heure, c'est un terme des bibliothécaires voyant tous les livres d'Aristote qui traitent de la physique. Ils sont nombreux. Enfin, ils sont énervés. Il y a un livre qui dépasse la physique. Donc, méta. Après, enfin, après la physique. Comme s'il n'y avait que la métaphysique qui dépassait la physique, alors qu'il y a le de anima. Le de anima, le nom l'indique bien. Aristote ne dit pas qu'on va faire un livre sur le corps. Non. Mais sur l'âme. Et je ne fais pas de livre au niveau philosophique de la nature sur la forme. Non. Il y a métaphysique. Alors, la métaphysique commence avec Héraclite, en montrant qu'est-ce que j'expérimente en premier lieu, c'est le mouvement. Qu'est-ce que la science physique expérimente en premier lieu, c'est l'être mobile. Vous voyez, il y a une parenté là, il y a quelque chose d'intéressant à saisir. Je comprends très bien que l'être mobile a une connaturalité très particulière avec l'homme. Je suis au milieu d'un monde mobile, qui change tout le temps, qui change tout le temps, qui change tout le temps. Il a quand même une certaine stabilité, mais il change tout le temps. C'est pour ça que quand on est en face du monde physique, on a tentation d'être prophète. Marx veut être prophète. Il est prophète du triomphe de la cause matérielle. Il veut montrer que quoi qu'on fasse, on mourra. Et donc la matière l'emporte sur nous. Et elle enterre tout. On enfouit le corps. Et ça fait partie de la richesse de la cause matérielle. La cause matérielle capte le corps et le prend. C'est vrai, c'est terrible à voir, mais c'est ça. La cause matérielle, la terre, s'empare de tous les cadavres. Et l'Apocalypse a quelque chose de très fort quand il montre que tous les cadavres de la mer sont repris. Il y a les cadavres de la terre et les cadavres de la mer. La mer est plus violente que la terre. On ne dit pas que la mer est maternelle. Demandez à un breton si la mer est maternelle. Non, elle est côte sauvage. Elle est terrible. Elle se venge toujours. Elle a un irascible effrayant. Si vous vous laissez prendre, la terre est douce. Elle est bonne. C'est très curieux ces choses-là. Et c'est intéressant. Et là, la philosophie de la nature est intéressante pour voir ce qu'il y a de vrai dans tous ces mythes. Quand je dis que la terre est maternelle, c'est un mythe. Elle accueille le corps, le cadavre. Mais elle l'avale. Hein. Au bout d'un certain temps, regardez bien, il n'y a plus rien. Hein. Tu es poussière, tu retourneras en poussière, même ça. Tu viens de la terre et c'est... Alors, elle est maternelle, mais elle capte. Et quand vous dites que la mère est terrible, qu'elle se venge, c'est mythique, ça. Tous les mythes bretons. Hein, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a de vrai là-dedans? C'est la philosophie de la nature qui doit passer. C'est la philosophie du vivant qui montre ce qui est vrai. Parce que les mythes ne prennent jamais ce qui est. C'est du côté du devenir. Les mythes sont du côté du devenir. Or, le devenir n'épuise pas l'être en mouvement. C'est ça qui est très curieux. Et ça, je le constate. Le devenir n'épuise pas l'être en mouvement. Il y a quelque chose qui demeure au-delà du devenir. Le sujet radical, la cause matérielle. La cause matérielle, c'est ce qui demeure au-delà du devenir. Et c'est vrai. Vous êtes obligés. Le devenir fait tomber les cathédrales. Si on ne fait pas grande attention. Le devenir fait tomber le Parthénon. Si on ne fait pas grande attention. Il commence à le ronger. Actuellement. Parce que le devenir, il dépend de l'atmosphère. Alors on a une atmosphère qui devient terriblement nocif pour les poumons, on le sait. Pour le pancréas, on le sait. Toutes des maladies obscures, souterraines, comme le cancer. On s'en aperçoit, c'est exactement comme les taupes. Taupe, on s'aperçoit qu'elles sont là quand la terre monte. Hein. Mais elle n'est pas apparue, la terre monte, c'est suffisant. Je suis passé par là. La petite taupe dit ça. Voilà mes signatures. Je suis passé par là. Vous voyez bien. Et ça, c'est la matière. La matière agit comme ça. Elle agit d'une façon souterraine. Il y a des maladies qui agissent de façon souterraine. On s'en aperçoit tout d'un coup quand la terre a gonflé. Mais souvent trop tard. On peut plus. Si on le voyait dès le point de départ, oh, ce serait très facile. Ce serait très facile. Mais on ne le voit pas au point de départ, c'est souterrain. C'est vrai, on raconte cette histoire qui est vraie, qui est authentique. Deux médecins, se connaissant très bien, parlent du cancer. Ils disent, ce cancer, oui, ça échappe au point de départ. Ça, ça. Tous les deux s'écrivent, 15 jours après qu'ils soient vus, en parlant du cancer, on a fait venir le cancer. Tu ne savais pas que tu étais cancéreux, et je ne savais pas que je l'étais. Et les deux amis s'écrivent en disant, ils ont découvert qu'ils étaient cancéreux. Ils avaient le cancer l'un et l'autre. Et quand ils étaient vus, ils parlaient objectivement du cancer, en disant que c'était terrible. C'est réel, ça. Et ce sont ces deux amis qui m'ont dit ça. Et c'est vrai. Même le médecin s'en aperçoit pas. Il s'en aperçoit plus vite que les autres, parce qu'il sait les dégâts. Il a regardé plus vite le grossissement de la terre, pour voir tout de suite, dès que ça commence. Et beaucoup de personnes ne veulent pas le connaître. Alors, quel est le point de départ de la philosophie de la nature? Quel est le point de départ? C'est que je m'aperçois que dans les réalités que j'expérimente, il y en a deux sortes. Il y en a une qui connaissent le devenir radical, la naissance. Et d'autres qui ne connaissent pas ce devenir radical. J'arrive à discerner dans mon expérience quotidienne le devenir physique et le devenir artificiel et le devenir du vivant. Je fais cette triple distinction. Il y a un devenir artificiel qui engage un principe extérieur que je peux facilement détecter. C'est l'intelligence humaine. Et peut-être l'intelligence, peut-être aussi, d'autres réalités, les soucoupes volantes. Quand on pose les anges, on n'a pas besoin de poser les soucoupes volantes. Parce que les anges ne sont pas des soucoupes volantes, mais elles font mieux que les soucoupes volantes. Les bons anges et les mauvais anges. Hein. De plus en plus, on s'aperçoit qu'il y a des forces extérieures, inconnaissables au point de vue scientifique. Point d'interrogation, je sais pas. Le savant est obligé de constater en biologie qu'il y a des malades qui se guérissent de façon prodigieuse. Les bons chrétiens disent miracle, eux n'emploient pas le mot miracle, ils n'ont pas le droit d'emporter le mot miracle. C'est non scientifique. Ils disent la nature a des réserves infinies. Et c'est vrai, la nature a des réserves infinies. On ne peut jamais savoir exactement. On ne peut jamais savoir exactement. Surtout pour le cancer, on ne peut pas savoir. Il y en a qui mort foudroyante, très très rapide, mort très très lente. Alors oui, on généralise. Ordinairement, quand vous avez passé tel âge et que le cancer arrive, ça mettra du temps. Et vous ne mourrez peut-être pas du cancer. Mais le cancer sera là, vous talonnez. Et vous discernez qu'il y a une force extérieure qui peut agir et qui alors brouille les cartes complètement. Ça brouille complètement les cartes. Hein. C'est des lieux inscientifiques. C'est des lieux que les savants n'aiment pas. Des lieux où il y a des miracles. On parle de pèlerinage, pieusement. C'est des lieux où il y a des miracles. La cloche sonne, il y a quelque chose. Mais le savant, il ne sait pas. Dans un monde positiviste, le miracle, il ne faut pas en parler. Du point de vue philosophique, c'est très simple. Nous sommes enveloppés de causalités extrinsèques qui agissent sur nous. et ces causalités extrinsèques peuvent être purement spirituelles. Il n'y a pas de raison de supprimer ça. Aucune raison. Donc, ça peut être les bons anges, Michael. Et puis, il y a des bons anges qui sont spécialisés, comme des infirmiers, Toby, qui est miraculeusement pris par Raphaël. Raphaël, c'est un infirmier pépère, hein, extraordinaire. Il agit de façon tout à fait particulière. Raphaël, c'est pas pour rien. Hein. Alors, pour le croyant, c'est une réalité. Pour l'incroyant, c'est un mythe. C'est un mythe. Alors, on sourit sous cap. Oui, oui, c'est un mythe pour vous. Moi, je connais ce mythe. Je sais bien qu'il y a quelqu'un. Et je ne peux pas l'affirmer, hein, même au point de vue philosophique. Mais au point de vue philosophique, je reconnais que c'est possible. Il y a des causalités extérieures, extrinsèques. Jusqu'où vont-elles, ça, je ne le sais pas, mais je constate. Et puis, il y a les êtres qui ont une causalité immanente. Ils progressent par eux-mêmes. Le se movere, ils se meuvent, ils s'agitent, ils progressent, ils grandissent. On n'avait pas prévu, quand le petit gosse avait 2 ans, qu'un jour, il aurait 2 mètres. Alors le tout petit lit du début, hein, il est complètement abandonné. Il progresse de l'intérieur. Il y a une croissance. Et puis il y a des êtres qui ne sont pas vivants et qui sont capables de changer, de se mouvoir par un autre. Ils sont capables. On les met ou dans des forces humides. Et qui se meuvent encore à leur façon. Mais de façon surtout passive. Oui, ça, je peux le constater. Et c'est la première constatation que je dois faire. Je dois faire grande attention. Et au fond, je constate ça. Et voyez, et les bureaux de médecins à Lourdes qui doivent constater si c'est un miracle ou pas un miracle, ils constatent ça. Il y a eu intervention d'une causalité inconnue. Mais c'est très difficile à prononcer, hein. Parce que plus on avance, plus on voit que la causalité immanente a des actions d'agir extrêmement variées. Donc avant de dire causalité extrinsèque, qui est l'intervention de Dieu, on doit passer par tous les intermédiaires. Possible. Et c'est pour ça qu'on est si prudent. Qu'on est si prudent. On attend pour voir si ce bienfait, cette guérison, va durer. Première constatation. Si ça dure, ah, c'est très sérieux. Et si l'intervention... Mais c'est intéressant à voir comment, vous voyez, on essaie de ramener le moins souvent la causalité extrinsèque et de la diminuer. Mais il y a pour le philosophe une constatation première. Et par le fait même, il y a 3 développements possibles, philosophiques, puisque le philosophe cherche les causes. D'où ça vient? D'où ça vient? C'est la première question. Il y a des choses qui proviennent de l'art. Ça, on en est sûr. Il y a des choses qui proviennent de la nature et de l'art. On est sûr. L'art médical existe. Il agit. Et pour que l'art médical soit efficace, il fait appel au Et je crois qu'on doit là avoir un regard extrêmement net pour discerner ces 3 sortes de mouvements. qu'on appelle différemment. Trois sortes de mouvements. Un mouvement naturel, un devenir naturel, un devenir du vivant qui est naturel aussi. Et de fait, ce qui semble être un devenir immanent, ou vital, ou physique. Alors réfléchissez là-dessus. Et à partir de là, je discerne trois recherches différentes.